Chapitre 19. Sur leur support paré d'or fin, les torches projetaient une lumière vacillante le long des parois et de la voûte en granit rose de la grande crypte. Dans l'air immobile, l'odeur de la fumée se mêlait au parfum des roses blanches. Renouvelées chaque matin depuis ces 30 dernières années, les fleurs remplissaient les 57 vases fixés au mur sous les 57 torches qui symbolisaient chaque année de la vie du défunt. Le sol était en marbre blanc, afin qu'aucun pétale tombé des bouquets ne puisse attirer l'œil. Une armée de serviteurs s'assurait qu'aucune torche ne reste éteinte trop longtemps et que les pétales soient promptement enlevés. Une mission qu'ils prenaient terriblement au sérieux, car la moindre inattention leur valait de goûter à la hache du bourreau. Jour et nuit, des gardes vérifiaient que toutes les torches brûlaient, qu'on avait bien changé les fleurs et qu'aucun pétale ne restait plus de quelques minutes sur le marbre. Les serviteurs venaient des communautés paysannes de cette région de Dara. Un poste dans la crypte, selon la loi, était un honneur. En cas d'exécution, suprême récompense, les condamnés bénéficiaient d'une mort rapide. Dans un pays où les agonies interminables étaient fréquentes et universellement redoutées, ça valait de l'or. Pour éviter qu'ils médisent du roi défunt pendant qu'ils travaillaient dans la crypte, on coupait la langue aux serviteurs le jour de leur prise de fonction. Les soirs où il résidait chez lui dans le palais du peuple, le maître venait immanquablement dans la tombe. Au cours de ses visites, les domestiques et les gardes étaient interdits d'accès. Les serviteurs ayant passé l'après-midi à remplacer les torches défaillantes et à secouer délicatement des centaines de roses afin de vérifier que leurs pétales tenaient bien, toute lumière qui s'éteignait en présence du maître ou tout pétale aperçu sur le sol avait pour résultat une exécution. Au centre de l'immense salle, le catafalque reposait sur un pilier tronqué, et le jeu de lumière, blanc sur blanc, donnait l'impression qu'il flottait dans les airs. Revêtu d'or, il brillait comme un soleil sous la lumière des torches. Ses flancs étaient couverts d'inscriptions comme les parois de la crypte, entre chaque ensemble composé d'une torche et d'un vase. Dans un antique langage, elle recensait toutes les instructions qu'un père avait laissées à son fils. Accessible à une poignée d'individus, à part le fils en question, il ne vivait pas en Dara, elles expliquaient comment pénétrer dans le royaume des morts et en ressortir. Tous ceux qui les comprenaient et avaient eu le malheur de résider en Dara pourrissaient depuis longtemps dans leur tombe. Bientôt les autres suivraient le même chemin. Dans la crypte abandonnée par les serviteurs et les soldats, le maître se recueillait devant le tombeau de son père. Deux de ses gardes du corps personnel flanquaient la lourde porte en bronze poli et sculpté. Leurs tuniques de cuir et leurs cottes de mailles sans manches soulignaient la puissance de leur musculature. Sur leurs bras nus, juste au-dessus du cou, des cercles de fer hérissés de piques brillaient de tout leur feu. Au corps à corps, ces armes pouvaient éventrer un adversaire. Tarkenral laissa courir ses doigts fins sur les inscriptions du catafalque. Sa silhouette élancée, couverte d'une longue robe blanche immaculée, n'était des broderies en fil d'or autour du cou et sur la poitrine, il ne portait aucun bijou, à part un couteau à lame incurvée glissé dans un fourreau en or couvert de runes qui éloignait les esprits de lui. La ceinture où pendait l'arme était un superbe tissage de fil d'or presque aussi somptueux que les cheveux blonds qui cascadaient jusqu'à ses épaules. Comme ses yeux, d'une nuance de bleu douloureuse à force d'être belle, ses traits touchaient à la perfection. Beaucoup de femmes avaient connu les honneurs de son lit. À cause de sa beauté et de son pouvoir, certaines y étaient venues de leur plein gré. D'autres, que sa splendeur n'émouvait pas, avaient simplement dû se plier à sa volonté. Mais qu'elles fussent consentantes ou non ne l'intéressait pas. Et celle qui se montrait assez folle pour tressaillir en découvrant ses cicatrices le divertissait d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Comme son père, Darkenral considérait les femmes comme les réceptacles de la semence de l'homme. La terre où poussait la graine, indigne de considération. À l'instar de son géniteur, il n'avait pas d'épouse. Quant à sa mère, la première qui eut reçu le sperme sacré de Panis, elle avait été renvoyée à l'oubli après sa naissance, ainsi qu'il convenait. S'il avait des frères et sœurs, il l'ignorait et s'en souciait comme d'une guigne. Le premier fils avait tout et les autres ne valaient rien. Lui seul était né avec le don et avait reçu en héritage le savoir de son père. Ses demi-frères et sœurs, pour autant qu'il en eût, de la mauvaise herbe, tout juste bonne à être arrachée si elle lui tombait un jour sous la main. Alors que ses doigts couraient sur les inscriptions, Darkenral se répéta mentalement les consignes de son père. Bien qu'il fût vital de les suivre à la lettre, il ne redoutait pas de se tromper, car chaque mot était gravé dans sa mémoire. Mais il adorait l'excitation de ce moment, le passage, où il oscillait entre la vie et la mort. S'aventurer dans le royaume des spectres et leur commander était un de ses grands plaisirs. Il lui tardait d'entreprendre le prochain voyage. Il entendit des bruits de pas. Quelqu'un approchait. Si Darkenral ne broncha pas, ses gardes tirèrent aussitôt leur épée. Nul n'avait le droit d'être dans la crypte avec le maître, à part Demin Nas. Et c'était lui qui venait d'entrer. Bras droit de Ral et chantre assermenté de ses noires pensées, Nas était au moins aussi costaud que les hommes qu'il dirigeait. Et il passa entre les gardes, les ignorant superbement, ses muscles de colosse découpés par la lumière des torches, mais la peau de sa poitrine semblait aussi douce que celle des petits garçons dont il raffolait. Contraste saisissant, son visage était constellé de stigmates de la petite vérole. Sous sa brosse blonde, une bande de cheveux noirs partait du milieu de son sourcil droit, remontait le long de son front et venait mourir sur sa nuque. Un signe particulier qui permettait de le reconnaître de loin, et une aubaine pour tous ceux qui avaient de bonnes raisons de l'éviter. Concentré sur les runes, Darkenral ne tourna pas la tête quand ses gardes tirèrent leurs épées. Lorsqu'ils les rengainèrent, il afficha la même indifférence. Aussi efficace fut-il, ces hommes, de simples attributs de sa position, ne lui servaient à rien, car il avait assez de pouvoir pour neutraliser toutes les menaces. Demin Nas se mit au repos et attendit que le maître en ait terminé. Quand Darkenral se retourna dans un grand envol de robes et de cheveux, il s'inclina respectueusement. « Seigneur Ral, dit-il, la tête toujours baissée. Demin, mon vieil ami, comme je suis content de te revoir !» s'exclama Ral, sa voix pure comme le cristal. « Seigneur, fit Demin en se redressant, l'air agacé, la reine Milena nous a communiqué sa liste d'exigences. » Le regard de Darkenral traversa le commandant comme s'il avait été transparent, puis du bout de la langue, il humidifia les trois premiers doigts de sa main droite avant de les passer sur ses lèvres et sur ses sourcils. « Tu m'as amené un petit garçon ? » demanda-t-il.
« Oui, Seigneur, il vous attend dans le jardin de la vie. »
« Parfait, parfait. Dis-moi, il n'est pas trop vieux ? C'est encore un vrai petit garçon ?»«
Oui, Seigneur, c'est toujours un petit garçon. »
Ne tenant pas à croiser le regard de son maître, Demin Nas baissa les yeux.
« Tu es sûr, Demin ? Lui as-tu baissé le pantalon pour vérifier ?»«
Oui, Seigneur. »
Ral chercha à croiser le regard de son second.
« Et tu ne l'as pas touché, n'est-ce pas ? Tu sais qu'il doit être pur. »
Demin releva les yeux.
« Non, Seigneur, je n'oserais pas souiller votre guide spirituel, vous me l'avez interdit. »
Darkenral humidifia de nouveau ses doigts et se lissa les sourcils.
« Je sais que tu en mourrais d'envie, Demin, » dit-il en avançant d'un pas. « Était-ce pénible ? Regarder mais ne pas toucher. »
Il eut un sourire moqueur très fugace. «
Ta petite faiblesse m'a déjà valu des ennuis.
J'ai tout arrangé. Brophy, un marchand, a été arrêté pour le meurtre de ce petit garçon.
Exact, coupa Ral. Mais il s'en est remis à une inquisitrice afin de prouver son innocence.
Comment aurais-je pu le prévoir? Quel homme s'y résoudrait volontairement?
Ral leva une main imposant le silence au commandant. Tu aurais dû être plus prudent et ne pas oublier l'existence des inquisitrices. Au fait, en avons-nous fini avec elles?
Presque. Le quatuor que j'ai lancé aux trousses de Calan, la mère inquisitrice, a échoué. J'ai dû en envoyer un autre.
Si je ne me trompe, c'est elle qui s'est occupée de Brophy et qui a découvert son innocence.
C'est bien elle. Quelqu'un a dû l'aider, sinon elle n'aurait pas échappé au quatuor.
Ral ne dit rien, se contentant de dévisager des mines qui craqua le premier.
Mais ce sont des affaires mineures, seigneur. Vous ne devriez pas perdre votre temps avec ça.
C'est à moi d'en juger, dit Ral d'une voix presque amicale.
Bien sûr, seigneur. Je vous prie de me pardonner.
Pour savoir s'il s'aventurait sur un terrain dangereux, Desmines n'avait pas besoin que son maître hausse le ton. Ral s'humidifia de nouveau les doigts et les passa sur ses lèvres. Desmines, si tu as touché le petit garçon, je le saurai.
Seigneur Ral,
se défendit Nas, de la sueur ruisselant sur son front.
Je donnerai avec joie ma vie pour vous. Et je jure que je ne souillerai jamais votre guide spirituel.
Si tu l'as fait, ça ne m'échappera pas. Inutile de te rappeler le sort qui attend ceux qui me mentent. Je déteste qu'on ne me dise pas la vérité. C'est très mal.
Seigneur,
fit Desmines, pressé de changer de sujet.
Que dois-je répondre à la reine Milena?
« Dis-lui que je me plierai à ses exigences en échange de la boîte. »«
Mais, seigneur, vous n'avez même pas consulté la liste. »«
Eh bien, ce sujet-là ne mérite pas que je perde mon temps à y penser. » Desmines sauta d'un pied sur l'autre, mal à l'aise.
« Seigneur, je ne comprends pas pourquoi vous jouez ce jeu avec la reine. »« Recevoir une liste d'exigences est très humiliant. » Nous pourrions l'écraser sans problème, comme l'énorme grenouille bornée qu'elle est. Donnez-moi l'ordre que j'attends, et permettez-moi de lui transmettre en votre nom ma propre liste d'exigences. Elle regrettera de ne pas avoir plié l'échine devant vous comme elle aurait dû.
Ral eut un sourire énigmatique, sans doute l'écho d'une pensée secrète, en dévisageant son loyal serviteur. « Elle a un sorcier avec elle, Desmines, » rappela-t-il.
« Je sais, » fit le commandant en serrant les poings. « Dis-leur, un mot de vous, seigneur, et je rapporterai sa tête au palais. »«
Selon toi, mon cher, pourquoi Milena a-t-elle engagé un sorcier ?» Nas haussant les épaules, Ral répondit à sa propre question. « Pour protéger la boîte, bien sûr. Et elle avec, pense-t-elle ?» Si nous la tuons ou si nous éliminons le sorcier, nous risquons de découvrir qu'il a utilisé sa magie pour cacher la boîte. Alors il nous faudra beaucoup de temps pour la trouver. N'agissons pas impulsivement, Desmines. Pour l'instant, le plus facile est d'entrer dans son jeu. Si elle me met des bâtons dans les roues, nous nous occuperons d'elle et de son sorcier. Sans quitter Nas du regard, Ral fit lentement le tour du catafalque, ses doigts caressant toujours les inscriptions. « De plus, quand j'aurai la troisième boîte, les exigences de Milena ne vaudront pas un pet de lapin. » Il revint se camper devant son second. « Mais il y a une autre raison, mon ami. »«
Une autre, seigneur ?»
Darkenral s'approcha encore et baissa la voix. « Desmines, ce fameux petit garçon,
L'as-tu tué avant ou après ? Desmines recula un peu, glissa un pouce dans sa ceinture et s'éclaircit la gorge.
Après.
Pourquoi pas avant ? Desmines baissa les yeux et dansa de nouveau d'un pied sur l'autre. Darkenral ne le lâcha pas du regard comme un prédateur.
Parce que j'aime qu'il se débatte,
souffla Desmines pour que les gardes du corps ne l'entendent pas. Voilà mon autre raison, jubila Darkenral. Moi aussi j'aime que mes proies se débattent, symboliquement parlant. Avant de la tuer, je veux voir Milena se tortiller comme une anguille. Il s'humidifia de nouveau les doigts et les passa sur ses lèvres.
Je dirai à la reine que le petit père Ral accepte ses conditions,
fit Desmines avec un sourire entendu. Excellent, mon ami, dit Ral en posant une main sur l'épaule musclée du commandant. À présent, montre-moi le petit garçon que tu m'as amené. Souriant, les deux hommes approchèrent de la porte. Mais Ral s'arrêta soudain et fit volte-face.
Ce bruit, c'était quoi ?
Demanda-t-il. À part le sifflement des torches, la crypte était aussi silencieuse que le monarque défunt. Desmines et les gardes, perplexes, regardèrent autour d'eux.
« Là !»
cria Ral en tendant l'index. Ses trois compagnons tournèrent la tête et découvrirent un pétale de rose sur le sol. Darkenral s'empourpra, les yeux brillants de fureur. Les poings serrés, tremblant de tous ses membres, des larmes de rage aux paupières, il ne pouvait plus parler. Se reprenant un peu, il tendit le bras vers le pétale. Soulevé par un vent invisible, celui-ci vola dans les airs et vint se poser dans sa paume. Il lui donna un coup de langue, se tourna vers un des gardes et le lui colla sur le front. L'homme ne broncha pas. Sachant ce que voulait le maître, il hocha la tête, se détourna et sortit en dégainant son épée. Darkenral se redressa de toute sa hauteur et lissa du plat de la main ses cheveux, puis sa robe. Il expira à fond pour expulser sa colère avec l'air que contenaient ses poumons. Enfin, il se tourna vers Desmines, toujours impassible.
« Je ne demande que ça à ces gens. S'occuper de la tombe de mon père. » Ils sont bien traités, nourris comme des rois et vêtus comme des princes. La mission est pourtant simple. »
Il prit l'air chagriné.
« Pourquoi se fichent-ils de moi en traitant leur travail par-dessus la jambe ?»
Il regarda le cercueil de son père, puis dévisagea de nouveau Desmines.
« Mon ami, crois-tu que je suis trop dur avec eux ?»«
Au contraire, Seigneur. Si vous étiez moins indulgent, par exemple, en ne leur accordant pas une mort rapide, ils seraient beaucoup plus attentifs à vos désirs. À votre place, je ne me montrerais pas si clément. »
Le regard dans le vide, Ral hocha distraitement la tête, puis il prit une grande inspiration et avança vers la porte. Desmines marcha à ses côtés. Le garde les suivant à une distance respectueuse. Ils traversèrent de longs couloirs aux murs de granit éclairés par des torches, gravirent des escaliers en spirale aux marches de pierre blanche et s'engagèrent dans d'autres couloirs munis de fenêtres, ceux-là. La pierre diffusait une odeur de moisissure et d'écurie. À mesure qu'ils montaient, l'atmosphère devint plus salubre. Sur les petites tables placées à intervalles réguliers dans les couloirs, les bouquets de fleurs fraîches dans leurs vases précieux embaumaient l'air de senteurs végétales. Sa mission accomplie, le deuxième garde du corps les rejoignit devant une double porte aux battants sculptés en relief, des scènes champêtres frappantes de réalisme. Desmines tira sur l'anneau de fer. La lourde porte s'ouvrit sans le moindre grincement sur une pièce au mur lambrissé de chêne noir verni qui brillait à la lueur des lampes et des bougies disposées sur les tables en bois massif. Des étagères chargées de livres couvraient entièrement deux murs. Au fond, une immense cheminée chauffait la salle à deux niveaux. Ral s'arrêta un court instant pour consulter un ouvrage relié en cuir posé sur un pupitre. Puis Desmines et lui traversèrent un labyrinthe de pièces aux murs également lambrissés. Mais quelques-uns en plâtre étaient couverts de peintures bucoliques. La campagne de Dara, des forêts et des champs, des enfants occupés à jouer. Ombres fidèles de leur maître, les gardes du corps le suivaient perpétuellement aux aguets. Au fond d'une des plus petites pièces qu'ils traversèrent, un bon feu crépitait dans une cheminée en briques. Ici, les murs étaient ornés de trophées de chasse. Des têtes d'animaux, leurs andouilles saillant comme des lances à la lumière dansante des flammes. Darkenral s'immobilisa abruptement, et sa robe prit une teinte rose à cause de cette illumination très spéciale.
« Encore !» murmura-t-il.
Desmine, qui s'était arrêté en même temps que son maître, l'interrogea du regard.
« Elle est revenue vers la frontière, le royaume des morts. »
Il s'humidifia une nouvelle fois les doigts et les passa sur ses lèvres et ses sourcils, le regard vide.
« Qui ?»
demanda Desmine.
« La mère inquisitrice, Callan, un sorcier laide. »
« Giller est avec la reine, » rappela Nas, « pas aux côtés de la mère inquisitrice. »«
Je ne parle pas de lui, » dit Ral, « mais du vieux, celui qui a tué mon père, l'homme que je cherche, Callan l'a trouvé. »
Desmine en sursauta de surprise. Ral approcha d'une haute fenêtre au fond de la pièce, les mains croisées dans le dos. Le petit père contempla longuement le paysage obscur à travers les carreaux et y vit des choses que lui seul pouvait distinguer. Puis il se tourna vers Desmine, ses cheveux blonds ondulant sur ses épaules.
« C'est pour ça qu'elle est allée en terre d'ouest, » dit-il. « Pas pour fuir ton quatuor, comme tu le croyais, mais pour trouver le grand sorcier. En le débusquant, elle m'a rendu service, mon ami. » « Félicitons-nous qu'elle ait pu échapper aux entités de la frontière. Décidément, le destin est dans notre camp. Comprends-tu pourquoi je te répète sans cesse de ne pas t'inquiéter? La victoire m'est promise et tout conspire à me l'assurer. »
« Un quatuor a échoué, c'est vrai, »
admit Desmine.
« Mais ça ne signifie pas qu'elle ait trouvé le sorcier. Il est déjà arrivé que nos spécialistes laissent échapper leur proie. »
Ral se lécha une fois de plus le bout des doigts et approcha du colosse.
« Le vieux a désigné un sourcier, » murmura-t-il.
« Vous en êtes sûr, seigneur ?»
Il s'était juré de ne plus aider les gens et personne ne l'avait vu depuis des années. Aucun prisonnier n'a pu me révéler son nom, même pour avoir la vie sauve. À présent, l'inquisitrice est passée en terre d'ouest. Un quatuor manque à l'appel, et il y a un nouveau sourcier.
Ral se rembrunit et serra les poings.
J'ai failli les avoir tous les trois, mais j'ai été distrait par d'autres problèmes et ils ont pu fuir. Pour l'instant.
Il réfléchit quelques secondes, puis déclara : Le deuxième quatuor échouera aussi.
Tes hommes ne s'attendront pas à affronter un sorcier.
« J'enverrai une troisième équipe, et cette fois elle sera prévenue. »«
Non, pas encore. Attendons de voir ce qui se passe. Callan va peut-être encore m'aider, involontairement, bien sûr. Au fait, elle est jolie ?»«
Je ne l'ai jamais vue, seigneur, mais certains de mes hommes la connaissaient. Ils se sont battus pour faire partie de l'équipe qui s'amuserait un peu avec elle avant de la tuer. »«
N'envoie personne pour le moment, » dit Ral. « Il est grand temps que j'aie une descendance. C'est moi qui m'amuserai avec elle. »
« Si elle tente de traverser la frontière, elle sera perdue pour tout le monde, »
rappela Desmine.
« Callan sera peut-être plus maligne que ça. Elle a déjà fait montre d'intelligence. D'une façon ou d'une autre, je l'aurai, et elle se débattra pour mon plaisir. »
« Le sorcier et l'inquisitrice sont dangereux, seigneur. » Ils peuvent nous gêner beaucoup. Souvenez-vous que les inquisitrices ont mis en doute vos paroles sacrées. De vraies enquiquineuses, celles-là. Tenons-nous-en au plan et faisons la tuer.
Toujours des inquiétudes, des mines. Comme tu l'as dit, les inquisitrices sont des enquiquineuses, rien de plus. Si elle m'ennuie, je l'exécuterai de mes propres mains. Mais pas avant qu'elle m'ait donné un fils, l'enfant d'une inquisitrice. Même s'il a détruit mon père, le sorcier ne peut rien contre moi. Je le regarderai se tortiller comme une anguille avant de le tuer lentement.
« Et le sourcier ?»
demanda Desmines sans cacher son angoisse.
« Lui, c'est encore moins qu'un enquiquineur. »«
Seigneur, inutile de vous rappeler que l'hiver approche. »
Ral leva un sourcil. La lumière des flammes dansa dans ses yeux.
« La reine détient la boîte qui me manque et elle me la remettra à temps. Tout ira bien. »«
Et le grimoire, seigneur ?»
Après mon voyage dans le royaume des morts, je recommencerai à chercher le jeune Cypher. Cesse de te ronger les sangs, mon ami, le destin est de notre côté.
Ral fit volte-face et s'éloigna à grandes enjambées. Desmines le suivit, les gardes sur les talons. Le jardin de la vie était une salle aux allures de caverne située au centre du palais du peuple. Des fenêtres aux minuscules carreaux très en hauteur laissaient entrer la lumière indispensable à la luxuriante végétation. Ce soir, il laissait plutôt entrer à flot les rayons de la lune. Devant la muraille circulaire couverte de plantes grimpantes, de petits arbres montaient la garde en rang serré. À leurs pieds s'étendaient des parterres de fleurs et des haies bien taillées entre lesquelles serpentaient des sentiers semés de gravillons. N'étaient les fenêtres, on se serait cru dans un jardin intérieur. Un lieu consacré à la beauté et à la paix. Au centre de cette superbe et coûteuse folie, sur une pelouse quasiment ronde, au-dessus d'une zone en pierre blanche, trônait un bloc de granit. Lisse à l'exception des cannelures creusées à son sommet, près des bords et qui convergeaient toutes vers un petit puits dans un coin, il était soutenu par deux piédestaux également cannelés. Derrière, sur un bloc de pierre polie placé près d'un brasero, une antique coupe de fer reposait sur des pieds qui représentaient chacun un animal différent. Sur le couvercle, en guise de poignée, trônait une bête du royaume des morts, une shinga dressée sur ses pattes de derrière. Au centre de la pelouse, dans un cercle de sable blanc de sorcier couvert de symboles géométriques et entouré de torches, le petit garçon que Ral venait voir était enterré debout. Seule sa tête et son cou restaient visibles. Darken Ral approcha lentement, les mains dans le dos. Desmines alla se placer près des arbres, au-delà de la pelouse. Ral s'arrêta à quelques pas du cercle de sable et regarda l'enfant en souriant. « Comment t'appelles-tu, mon petit ?» Le garçonnet leva les yeux. Ses lèvres tremblèrent quand il découvrit Ral. Puis il regarda le colosse debout près des arbres et son visage se décomposa. Il mourait de peur.
« Desmines, dit Ral, laisse-nous. Emmène mes gardes du corps avec toi, je ne veux pas être dérangé. »
Desmines s'exécuta et les gardes le suivirent.
Darken Ral dévisagea de nouveau l'enfant, puis se baissa pour s'asseoir dans l'herbe. Après avoir arrangé les plis de sa robe autour de ses chevilles, il sourit de nouveau au gamin. « Tu aimes mieux comme ça ?» L'enfant hocha la tête, mais ses lèvres tremblaient toujours. « Tu as peur de cet homme ?» Un autre hochement de tête. « Il t'a fait mal ? Il t'a touché à un endroit interdit ?» Ses yeux, où brûlait un mélange d'angoisse et de colère toujours rivés sur Ral, le petit garçon secoua la tête. Une fourmi traversa le sable et vint ramper sur son cou. « Comment t'appelles-tu ? » répéta Darken Ral. N'obtenant pas de réponse, il fixa plus intensément les yeux marrons de l'enfant. « Tu sais qui je suis ? »
« Darken Ral ? »
« Petit père Ral ! » corrigea le maître avec un sourire indulgent.
« Je veux rentrer chez moi, »
gémit le garçon tandis que la fourmi se lançait à la découverte de son menton.
« C'est tout à fait normal, » compatit Ral. « S'il te plaît,
Crois-moi quand je jure que je ne te ferai pas de mal.
Tu es là pour m'assister lors d'une très importante cérémonie. Un invité respecté qui incarne l'innocence et la force de la jeunesse. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi? Parce que tout le monde m'a dit du bien de toi. Les gens m'ont assuré que tu étais intelligent et fort.
M'aurait-il menti? Intimidé, l'enfant détourna le regard.
Non, je crois que non.
Le gamin leva de nouveau les yeux sur Ral.
Mais ma mère me manque et je veux rentrer à la maison.
À présent, la fourmi décrivait de petits cercles sur sa joue droite.
« Je te comprends, »
dit Ral de la mélancolie au fond des prunelles.
« Tu sais, ma mère me manque aussi. C'était une femme formidable et je l'adorais. Elle s'occupait si bien de moi. Quand je l'aidais dans la maison pour me récompenser, elle me préparait le plat que je voulais. Tu te rends compte ?»«
Ma mère le fait aussi, »
dit l'enfant, les yeux écarquillés de surprise. Mes parents et moi, nous étions très heureux. On s'aimait beaucoup et on s'amusait tout le temps. Ma mère avait un rire merveilleux. Quand papa lui racontait une de ses histoires à dormir debout, il adorait fanfaronner. Elle se moquait de lui et on rigolait tous les trois jusqu'à en avoir les larmes aux yeux.
« Pourquoi vous manque-t-elle ? »
demanda l'enfant avec un début de sourire.
« Elle est partie ? » ?»«
Non. »
« Mon père et ma mère sont morts il y a quelques années, très âgés après une longue et heureuse vie commune. Mais il me manque quand même. Alors je comprends que tu aies hâte de revoir tes parents. »
L'enfant hocha imperceptiblement la tête. Ses lèvres ne tremblaient plus. Quand la fourmi s'aventura sur son nez, il le plissa comiquement pour essayer de s'en débarrasser.
« Tu sais ce que je te propose ? Passons ensemble un aussi bon moment que possible. » « Ensuite, tu iras les retrouver. Tu n'auras même pas vu le temps s'écouler. »«
Je m'appelle Karl, » dit enfin l'enfant. « Enchanté de faire ta connaissance. »
Ral tendit une main, saisit délicatement la fourmi et la retira du visage de Karl.
« Merci, »
fit le petit garçon soulagé.
« C'est pour ça que je suis là. Je veux être ton ami et combler tous tes désirs. »
« Alors vous pourriez me déterrer et me ramener chez moi ?»«
Ne t'impatiente pas, fiston, c'est pour bientôt. »«
J'aimerais te libérer tout de suite, mais les gens demandent que je les défende contre les méchants. »« Je dois agir, tu comprends, et tu peux m'aider. »«
Karl, tu joueras un rôle important dans la cérémonie qui protégera tes parents de nos ennemis. »«
Tu as envie de défendre ta mère, n'est-ce pas ?» L'enfant réfléchit quelques secondes.
« Eh bien, oui. » « Mais je veux rentrer chez moi. »
Ses lèvres recommencèrent à trembler. Ral tendit de nouveau la main, lui ébouriffa gentiment les cheveux, puis les lissa en arrière.
« Je sais, mais tu dois être courageux. On ne te fera pas de mal, c'est promis, je m'en assurerai. Au fait, tu as faim ?»
Karl fit non de la tête.
« Tant pis.
Il est tard, alors je vais te laisser dormir. » Ral se leva et épousseta sa robe.
« Petit père Ral ?»«
Oui, Karl. »«
J'ai peur quand je suis seul ici. Tu voudrais rester avec moi ?»
Une grosse larme roula sur la joue du gamin.
« Bien entendu, mon enfant. »
Ral se rassit dans l'herbe.
« Aussi longtemps que tu désireras. Toute la nuit même, si ça te fait plaisir. »